Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 10 septembre 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran dévoile son missile FAT-360. Les États-Unis volent 84 camions citernes supplémentaires de pétrole syrien. Et le Nigeria se prépare à gonfler ses exportations gazières vers l'Europe. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'armée de terre iranienne a testé un missile sol-sol stratégique développé au niveau national qui a touché la cible désignée avec une précision extrême. Le commandant adjoint des forces terrestres de l'armée iranienne, le général de brigade Nozar Nemati, a déclaré vendredi 9 septembre que le missile, dont le nom de code est Fateh, Conquête 360, a été lancé lors de la deuxième étape des exercices RTDAR, Autorité 1401, qui sont en cours dans la région de Nasrabad de la province d'Ispahan. Il a ajouté que les unités de l'armée iranienne ont également tiré des essaims de missiles indigènes Fajr 5. Le missile a une portée de 75 km et peut transporter des ogives à fragmentation de 175 kg avec 90 kg d'explosifs brisants. Le général Nemati a expliqué que le missile FAT-360 peut atteindre des cibles stratégiques à la vitesse de 3704 km par heure et que sa vitesse peut être augmentée à environ 5000 km par heure tout en communiquant avec des satellites pour une navigation rapide et des frappes rapides contre des cibles ennemies. Le commandant militaire iranien de haut rang a poursuivi en disant que le missile a un énorme pouvoir destructeur bénéficiant d'une grande précision. Il est tiré à partir d'un système de lance-roquettes multiple MLRS et se verrouille sur la cible immédiatement après son décollage. Les capacités des véhicules blindés de transport de troupes de l'armée iranienne se sont également nettement améliorées face aux menaces potentielles car des lanceurs de missiles anti-chars délavillés à deux tubes ont été installés sur eux, encore précisé le général Nemati. L'ambassade d'Iran à Bruxelles a condamné une récente déclaration anti-iranienne publiée par l'OTAN, affirmant que l'alliance militaire occidentale n'était pas en mesure d'accuser Téhéran, étant donné son soutien à ceux qui ont mené des cyberattaques contre l'Iran dans le passé. Dans un communiqué vendredi 9 septembre, dont une copie a été publiée sur son compte Twitter, la mission diplomatique iranienne a catégoriquement rejeté les accusations sans fondement de l'alliance atlantique. L'OTAN et ses membres ont non seulement gardé le silence sur les cyberattaques contre les infrastructures et les installations nucléaires de l'Iran, mais ont également directement ou indirectement aidé et encouragé ces actes de cybersabotage, a déclaré la mission. En tant que pays cible et victime de cyberattaques contre ces infrastructures critiques par des alliés et partenaires de l'OTAN, la République islamique d'Iran rejette et condamne toute utilisation du cyberespace pour attaquer d'autres pays, lit-on dans le communiqué. La mission diplomatique a condamné l'OTAN et ses alliés pour être devenus un refuge sûr pour l'organisation terroriste anti-iranienne des Munafiqin. L'OTAN et ses alliés, prétendant lutter contre le terrorisme international, ont fermé les yeux sur le fait qu'un réseau terroriste a trouvé refuge dans les pays membres de l'OTAN, les transformant en quartiers généraux opérationnels pour lancer le plus large éventail imaginable d'attaques malveillantes contre l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la visite prévue du président iranien Ebrahim Raisi en Ouzbékistan pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, constituerait un tournant dans les relations bilatérales. Lors d'un appel téléphonique avec le ministre ouzbek des Affaires étrangères, Vladimir Norov, vendredi 9 septembre, M. Hossein Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie iranienne, a déclaré que l'Iran était prêt à contribuer au succès du sommet qui se tiendra à Samarcande les 15 et 16 septembre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a transmis les chaleureuses salutations du président Raisi au président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Pour sa part, Norov, le chef de la diplomatie ouzbek, s'est dit satisfait du projet du président iranien d'assister au sommet qui, a-t-il dit, accueillera 14 chefs d'État. Le ministre ouzbek des Affaires étrangères a déclaré que l'importance de l'adhésion de l'Iran et ses capacités seront à l'ordre du jour du sommet. Lors de son 21e sommet à Dushanbe en septembre 2021, le CS a approuvé des documents pour l'adhésion à part entière de l'Iran à l'Alliance politique, économique et de sécurité eurasienne. L'adhésion à part entière de l'Iran à l'ECS sera finalisée d'ici avril 2023 après la signature du premier mémorandum d'obligation du pays lors du sommet de Samarcande. La Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, l'Inde, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en sont actuellement membres à part entière. L'Iran, l'Afghanistan, la Biélorussie et la Mongolie sont des États observateurs. Le CS représente 40% de la population mondiale et 28% du produit intérieur brut mondial. Les forces américaines ont envoyé vendredi 84 camions citernes de pétrole syrien volés de la province d'Ouassaké, dans le nord-est de la Syrie, vers des bases américaines situées dans l'Irak voisin, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. La dernière cargaison a été envoyée en Irak par l'eau via le passage illégal de Mahmoudia, a-t-elle ajouté. La semaine dernière, ce sont plus de 300 véhicules de ce type qui ont été envoyés depuis les champs pétrolifères de la province d'Ouassaké, contrôlés par les États-Unis, vers des bases américaines en Irak. En Syrie, les gens peinent à obtenir du gaz pour cuisiner et du carburant pour leurs voitures et leurs entreprises. La pénurie de carburant entraîne également de longues coupures de courant quotidiennes. Le 8 août dernier, le ministère syrien du pétrole a accusé dans un communiqué l'armée américaine de voler 80% de la production pétrolière du pays. Selon lui, elle et ses supplétifs volent en moyenne 66 000 barils de pétrole par jour en Syrie, alors que la production journalière moyenne du pays devrait atteindre 80 000 barils au premier semestre 2022. Le 29 août, le même ministère a estimé que les pratiques des États-Unis dans le trafic illégal de pétrole avaient causé à ce jour des pertes directes et indirectes d'environ 107,1 milliards de dollars au secteur pétrolier et gazier de la Syrie. Les Palestiniens ont lancé 1526 opérations contre le régime sioniste. Le bataillon de Jenin est devenu l'armée de Jenin en acquérant une expérience militaire. La résistance dans cette ville a récemment ciblé les sionistes via des tactiques militaires, des guet-apens solides et des explosions téléguidées. Selon le service de sécurité intérieure israélien Shabak, les attaques des combattants palestiniens contre les soldats et colons israéliens en Cisjordanie ont considérablement augmenté. Entre janvier et août 2022, les Palestiniens ont lancé 1526 opérations officiellement déclarées par les médias israéliens. Les attaques palestiniennes ne se limitent plus au lancement de bouteilles incendiaires, de bombes au tuyau, aux jets de pierres et aux attaques au couteau. Les jeunes Palestiniens mènent aujourd'hui des opérations commando complexes avec des armes de plus en plus sophistiquées. D'après des sources palestiniennes, 23 Israéliens ont été tués et 62 autres blessés au cours de ces opérations, dont la plupart ont été effectuées par de jeunes hommes nés après la signature des accords entre d'Oslo en 1993. Le Nigeria se prépare à gonfler ses exportations gazières vers l'Europe. Approché par Bruxelles en juillet en prévision d'une éventuelle rupture des livraisons russes, le Nigeria promet de plus grandes quantités de gaz naturel liquéfié GNL à l'Europe. Bientôt, une décision finale d'investissement devrait être prise au sujet du gazoduc de 10 milliards de dollars prévu à cet effet et qui passera par le Niger et l'Algérie. C'est à Milan, lors du Gaztec qui s'est achevé jeudi 8 septembre, que le ministre nigérian des ressources pétrolières, Dimitri Silva, en a parlé. Porté depuis 2009 et ressorti des tiroirs cette année, le projet du gazoduc transsaharien résulte d'un partenariat tripartite. Fin juillet, le Nigeria, le Niger et l'Algérie ont signé un mémorandum d'entente pour sa concrétisation. Long de 4 128 km, dont 1 037 km au Nigeria, 841 km en terre nigérienne et 2 310 km sur le sol algérien, le gazoduc est fait pour acheminer le gaz nigérian vers les pays européens. Suite aux sanctions imposées à la Russie par l'Occident en raison de la guerre en Ukraine, les réductions de livraisons gazières par Moscou ont poussé Bruxelles à chercher rapidement des alternatives. Le continent africain est alors devenu une option privilégiée. Le Nigeria clôt le trio de tête de la production gazière continentale derrière l'Algérie et l'Égypte avec 49,3 milliards de mètres cubes pompés en 2019. Les Nations Unies ont encouragé vendredi 9 septembre les autorités nigériennes à poursuivre le dialogue avec l'opposition politique pour apaiser le climat politique au Niger. Le message de l'organisation a été transmis par le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique, Mahamat Anadif, au cours d'une audience, Mohamed Bazoum, à Niamey. Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021, remportée par le candidat Mohamed Bazoum, contesté par l'opposition, le Niger vit dans un climat politique quelque peu tendu. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Vaste manœuvre de l'armée de terre iranienne, le FAT 360 dévoilé. À qui s'adresse le message? L'armée de terre iranienne vient d'achever 48 heures d'un exercice à grande échelle, dont une partie s'est déroulée dans la nuit sur fond d'une menace directe US d'invoquer l'article 5 de défense collective contre l'Iran. Le prétexte? Une supposée cyberattaque iranienne contre l'Albanie. Mais personne n'est dupe. Non seulement les Américains cherchent à intimider l'Iran après l'échec des pourparlers de Vienne, mais encore, ils veulent empêcher la dynamique de rapprochement entre autres militaires Russie-Iran. Le général de brigade Nozar Nemati, commandant adjoint des forces terrestres de l'armée iranienne, a fait part du lancement des missiles sol-sol FAT 360 et Fajr 5 au cours de la deuxième phase de l'exercice Ertedar 1401. Au sujet des spécificités du missile stratégique FAT 360, il a déclaré « Ce missile est utilisé contre des cibles stratégiques avec une vitesse de 3 Mach, tout en communiquant avec des satellites pour une navigation rapide au moment de frapper la cible. Il a une vitesse d'environ Mach 4 et près de 5000 km. Avec une puissance de destruction extraordinaire et une très grande précision, le FAT 360 est équipé d'une mitrailleuse à 6 canons et après le tir, il suit et détruit la cible commune. Il a affirmé que des véhicules de transport de troupes des forces terrestres de l'armée iranienne sont équipés de lance-missiles jumeaux de type Telavi. À l'issue de l'exercice, le commandant en chef de l'armée de terre iranienne a mis l'accent sur l'aspect réseauté de l'exercice. Le commandant de la force terrestre de l'armée, le général de brigade Kiyomar Seheidari, a déclaré que pour répondre aux menaces et aux batailles futures, quatre caractéristiques de précision dans le ciblage, la vigilance, le ciblage à distance et les équipements de réseau doivent être pris en compte. Lors des manœuvres RTDAR, autorité 1401, qui ont eu lieu dans la zone générale de Nasrabad de la province d'Ispahan, le général Idari a indiqué que les forces terrestres sont chargées de préserver l'indépendance et la souveraineté sur l'ensemble du territoire et de consolider la gloire de l'ordre de la République islamique d'Iran. Le général de brigade Idari a souligné la haute qualité des unités des forces terrestres de l'armée dans divers domaines, y compris les équipes d'artillerie et les drones. La force terrestre de l'armée a pu améliorer les performances opérationnelles et stratégiques de ses drones suite à des tests dans divers exercices. Grâce à l'expérience des forces armées dans le domaine de la maintenance des équipements et du développement des dispositifs blindés et d'artillerie, nous avons pu renforcer nos unités d'hélicoptères et de drones, s'est-il félicité avant de rappeler. Dans le monde contemporain, une attention particulière est portée à l'amélioration des équipements en prévision des conflits. Pour riposter aux menaces et aux conflits futurs, la précision dans le ciblage, la vigilance, le ciblage à distance et les équipements connectés via un réseau unifié doivent être pris en compte. La manœuvre militaire baptisée RTDAR, autorité 1401, a commencé le mercredi 7 septembre dans la province iranienne d'Ispahan et a duré 2 jours.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet, l'OTAN, l'Iran, les États-Unis et Israël. Pourquoi ? Parce que de nouveau, alors qu'on était censé signer dans très peu de temps les accords nucléaires, les accords de Vienne, soudainement les choses se sont modifiées puisqu'en ce début septembre, les États-Unis arrivent avec de nouvelles accusations par rapport à l'Albanie, un allié de l'OTAN, et poussant l'Iran sous pression de nouveau. C'est presque un résumé de 8 ans de négociations avec les États-Unis qu'on fait face à l'heure actuelle en septembre 2022. Alors, le débat, ce sont 2 invités, un sujet, ici de nouveau l'OTAN, et ses plans machiavéliques concernant toute personne opposée à l'OTAN, une entité qu'on rappelle qui aurait dû disparaître après la Seconde Guerre mondiale, une promesse qui a été faite aux Russes à l'époque, et pourtant l'OTAN est toujours là, voire même a provoqué une guerre directe entre l'Ukraine et la Russie, alors que la Russie n'aurait juste réclamé à ce que l'OTAN s'éloigne de ses frontières et que l'Ukraine n'en fasse pas partie, étant donné que c'est un pays voisin. Pour en savoir plus de cette nouvelle crise avec l'Albanie en plein milieu, nous avons 2 invités pour notre débat d'aujourd'hui. Monsieur Luc Michel, géopoliticien en direct de Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour Madame Midadi et bonjour à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Oui, et comme vous le venez de l'entendre, Madame Aïssa Midani est notre 2e invitée, analyste politique en direct de Damas. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Luc Michel.
Je suis ravie de vous revoir.
Merci
à tous.
Merci pour l'invitation.
Je suis ravie de vous revoir tous les deux sur ce plateau. Alors, j'ai presque envie de dire encore un discours redondant. Depuis 8 ans, on ne fait qu'entendre ce genre de discours concernant les attaques faites sur l'Iran. Mais cette fois, on y a mêlé quelque chose de nouveau, un ingrédient nouveau, l'OTAN, avec l'Albanie qui est donc un allié des États-Unis par le biais de cette institution qui est l'OTAN. Un OTAN qui devait disparaître après la Seconde Guerre mondiale, une promesse orale qui avait été faite aux Russes, qui à l'époque étaient alliés. Si on se rappelle bien, alliés donc, de l'Europe et puis des États-Unis à l'époque du nazisme. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire là sur cette situation avec l'Albanie ? Est-ce que vous y croyez déjà ?
C'est à moi de parler.
Oui, Madame Midani. Oui, excusez-moi. Oui, Madame Midani.
Merci. Alors, effectivement, l'OTAN devait disparaître le jour de la chute du mur de Berlin et le jour où l'Union soviétique a été en fait un peu a disparu pratiquement, et aussi surtout lorsque le pacte de Varsovie a été dissous suite à des accords avec Eltsine et Gorbatchev en 1990. Donc en fait, l'OTAN devait disparaître, mais il n'a pas disparu, alors que le pacte de Varsovie a bien disparu. Donc l'Union soviétique a bien tenu sa promesse, mais pas l'OTAN. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est important de voir que dans toutes ces manigances et toutes ces pratiques, le départ de l'accord nucléaire, de l'accord sur le nucléaire, les États-Unis, de Trump, le fait que cet accord a été signé sous Obama, et on pouvait penser que le retour des démocrates au pouvoir aux États-Unis, alors qu'il n'arrête pas de le confirmer, qu'ils ont besoin de retourner au nucléaire et qu'ils ont toute la volonté d'y revenir. Malheureusement, ils sont toujours en train de mentir. Les Iraniens ont recommencé effectivement des discussions indirectes avec les États-Unis et on était effectivement à quelques pas de la signature. Mais on a vu une activité israélienne complètement frénétique de la part pour empêcher cet accord. On a vu qu'il y a eu déjà, premièrement, le rapport de Grossi, le directeur, le responsable de l'AIEA, le dernier rapport, alors que tous les rapports précédents affirmaient que l'Iran respectait scrupuleusement tous les points de l'accord sur le nucléaire. Là, il stipulait qu'il y avait des enrichissements très importants de l'uranium qui faisaient sortir justement et que l'Iran n'appliquait pas les termes de l'accord, mais elle n'appliquait pas les termes des visites de l'AIEA et des inspections, ça c'était suite à une visite qu'il avait rendue à Israël. Alors d'ailleurs, on se demande pourquoi, parce que Israël ne fait absolument pas partie des pays qui ont signé contre le nucléaire et qui font partie de l'AIEA. Mais par la suite, justement, on voit qu'il y a eu à nouveau une avancée au niveau des discussions concernant le nucléaire. Et étant donné qu'on est à deux pas aussi de la signature, on a vu aussi le chef du Mossad et des services de renseignement israéliens voler aux États-Unis, rencontrer Biden, rencontrer les membres du Congrès. Et à nouveau, on voit ce coup monté arriver, donc attaque soi-disant de l'Iran, attaque cybernétique de l'Iran contre l'Albanie. Il est clair que c'est un coup monté, que c'est une volonté de la part non seulement des États-Unis, mais en fait c'est une action israélienne qui veut forcer les États-Unis à ne pas aller dans l'accord sur le nucléaire. Donc il est clair de voir d'ailleurs les déclarations récentes des Israéliens de cet état fantoche d'occupation. C'est que de toute façon, même si le nucléaire, l'accord, même si les États-Unis reviennent à l'accord sur le nucléaire, Israël ne se considère pas du tout obligé d'appliquer quoi que ce soit, qu'il continue à agir avec liberté, etc.
Merci Madame Midani.
Vis-à-vis de l'Iran.
Merci Madame Midani. Alors nous allons passer à notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Alors à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, on se retrouve face à des organisations et des États qui peuvent attaquer un pays sans aucune preuve. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette nouvelle attaque par rapport à l'Albanie, par rapport à une cyberattaque? On sait que les Iraniens sont très forts en piratage, donc c'est vraiment un sujet extrêmement sensible, mais aussi au fait que Israël, donc l'entité sioniste, a bien indiqué qu'il serait prêt à tout. Est-ce que cette phrase n'est pas à demi-mot quelque chose qui est en lien direct avec ce qui se passe avec l'Albanie à l'heure actuelle ?
Il y a trois choses à dire.
La première, c'est que l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, elle a conduit à un nouvel ordre mondial proclamé par Bush, qui fait des États-Unis la seule superpuissance mondiale. Et ça a été une catastrophe, puisque depuis, il n'y a que des guerres d'agression et des violations constantes du droit international. C'est un cycle géopolitique de terreur auquel Poutine a mis un terme avec l'opération spéciale en Ukraine. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les Américains sont prêts à tout pour ne pas revenir aux accords de Genève et à tenter de faire porter la responsabilité à l'Iran. D'où cette provocation. Moi, je ne crois pas du tout que les Américains veulent revenir à Genève et que les Israéliens les sabotent, mais je crois qu'ils sont tous les deux complices. Blinken a précisé depuis des mois qu'au cas où l'Iran se dirigerait vers une arme atomique, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ils ont dit que toutes les options étaient sur la table. Par toutes les options sur la table, c'est une frappe préemptive probablement exercée par Israël. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est le rôle de l'Albanie dans tout cela. À la fin de la destruction de l'Union soviétique, l'OTAN est passé à la destruction de la Yougoslavie. C'était la Yougoslavie de Milosevic qui était l'héritière de la Yougoslavie de Tito. C'était aussi l'État qui était le leader des pays non alignés, qui était notamment le principal allié de la Libye de Kadhafi. Au bout de 10 ans de guerre, la Yougoslavie était détruite et l'OTAN a constitué 3 bantoustans, exactement des États fantoches comme il en existait en Afrique du Sud sous l'apartheid. C'est la Bosnie-Herzégovine où il y a un commissaire de l'OTAN qui est plus puissant que le président. C'est le Kosovo qu'on a détaché de la Serbie et c'est l'Albanie. En ce qui concerne la Serbie, L'Albanie, et le Kosovo, ce sont deux États totalement fantoches livrés aux services secrets de l'OTAN, aux Israéliens et aux mafias qui collaborent avec les services secrets de l'OTAN. Donc, il n'est pas étonnant de voir l'Albanie intervenir dedans. Pourquoi a-t-on choisi l'Albanie? Pour pouvoir dire que l'Iran attaquait un pays musulman, puisque l'Albanie est censée être musulmane. Il s'agit en fait d'une revitalisation par les Américains des théories sur le croissant chiite destiné à briser le monde sunnite au Proche-Orient.
Merci Monsieur Luc Michel pour ces informations. C'est vrai qu'en plus récemment on a beaucoup parlé du Kosovo parce qu'il y a eu des problèmes par rapport au territoire, au passeport, au véhicule qui rentre et sort de son territoire. Donc c'est plutôt amusant que tout d'un coup l'Albanie également se réveille et dise qu'ils existent d'un point de vue international, je veux bien dire. Il faudrait mentionner, c'est le fait que vous-même, Madame Midani, qui êtes en Syrie, vous savez que l'Iran a fait une force de frappe de drones ces dernières années, qui sont extrêmement dangereux, puisque en Syrie, en Irak, au Moyen-Orient, on les a vus actifs, au Yémen, au Liban, chez les Palestiniens même eux-mêmes, ils ont été extrêmement actifs puisque cette technologie leur a été donnée. Est-ce que vous ne voyez pas également une liaison avec l'Ukraine et le fait et la peur de voir ce matériel arriver en aide aux Russes?
Écoutez, je crois qu'effectivement, l'Iran a énormément progressé au niveau de ses armes et au niveau de la fabrication des armes, au niveau de la force, au niveau de la précision, au niveau de la distance. Et d'ailleurs, on a vu qu'à tous les niveaux, les Américains, ils ont toujours voulu coupler les discussions sur le nucléaire avec les discussions sur les missiles à longue portée en Iran. Chose que l'Iran a toujours refusée et elle a toujours aussi montré que de toute façon, les différents problèmes sont complètement séparés. Ils ont aussi voulu coupler ces négociations ou ces discussions aussi avec l'histoire du Yémen, avec la Syrie, avec la présence de l'Iran et la direction de l'Iran à l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Et l'Iran a toujours voulu effectivement séparer tous ces dossiers quand on discute de l'Iran, du nucléaire, on discute du nucléaire et puis c'est tout. Mais en fait, toujours ces intrigues américaines et de l'OTAN et aussi d'Israël. D'ailleurs, Israël fait partie de l'OTAN sans en faire partie. C'est aussi fait partie des États-Unis sans en faire partie. On le sait parfaitement. Moi, je voudrais signaler aussi que toutes ces interdictions à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Il faut quand même savoir qu'Israël possède des armes nucléaires, d'une part, et que d'autre part, ils n'ont même jamais adhéré à la charte de non-prolifération des armes nucléaires. Et voilà que l'AIEA consulte Israël, et Israël impose un certain nombre de choses à l'AIEA, et aussi aux États-Unis par le biais de pression du lobby juif aux États-Unis juste avant les élections du midterm, en fait, de la mi-période, là, en novembre. Et donc, ils font pression tous azimuts. Et donc, on voit aussi via l'Albanie maintenant, et on voit aussi via les pressions aussi sur la Syrie, les attaques sur le Liban, la résistance au Liban, et aussi les menaces sur le puits Karish au Liban. Donc il y a une conjonction quand même des forces pour empêcher d'une part que les gisements pétrolier et gaz qui se trouvent dans la mer Méditerranée, les empêcher d'une part à être exploités par les pays qui les possèdent, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, etc. Et puis toujours une prétention de la part d'Israël sur les richesses. Les richesses qui sont des richesses palestiniennes au large des côtes palestiniennes qui est un pays occupé, et en même temps il se targue d'une certaine légitimité à exploiter ces gisements.
Merci Madame Midani. Pour revenir donc aux drones des Iraniens, parce qu'il y a quand même des drones qui sont arrivés à l'aéroport de Moscou. Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une réaction directe à l'intervention ou à l'achat par les Russes des drones iraniens et du fait que les Américains ont pu, la CENTCOM a pu tester les performances de ces drones et la peur de les voir agir en Ukraine? Est-ce que, comme Madame Midani vous indiquait qu'aussi il y a une forme depuis début septembre avec les champs de Karish, il y a une forme d'unité au niveau des résistants qui veulent attaquer tous en même temps? Qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que l'Iran est quand même le point central, puisque c'est eux qui donnent la technologie, c'est eux qui parlent au nom des Palestiniens très souvent au niveau international? Qu'est-ce que vous en pensez?
L'intervention de l'Irak avec ses drones, elle a semé la panique parmi les pays de l'OTAN. Il y a d'ailleurs toute une campagne dans la presse occidentale pour faire croire que ces drones ne seraient pas performants. Donc, il y a également le rôle de l'Iran dans la guerre du gaz aux côtés de la Russie. Tout cela fait que l'Iran est devenu une cible encore plus renforcée qu'avant de la part des Occidentaux. Lors des guerres d'Azerbaïdjan, il y a quelques mois contre l'Arménie, et au début de la guerre en Ukraine, la fourniture par la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, aux puissances occidentales, c'est-à-dire à l'Azerbaïdjan et à l'Ukraine, de drones, a faussé le jeu stratégique. On sait que les drones iraniens Bayraktar ont particulièrement fait beaucoup de victimes parmi les Russes. On parle même de généraux russes tués. Et évidemment, ils ont fait perdre à l'Arménie la guerre contre l'Azerbaïdjan. En fournissant maintenant des drones iraniens à la Russie, l'Iran, évidemment, a rétabli l'équilibre stratégique. Il faut également dire quelque chose sur la question du retour du nucléaire civil iranien. c'est que d'un côté, il y a un bloc occidental constitué par les États-Unis, Londres, Berlin et Paris, qui prétendent, c'est un peu comme dans les mauvais films de gangsters américains, les Américains jouent les méchants et les Occidentaux jouent les gentils. Ils voudraient soi-disant aider l'Iran. Il faut quand même dire que dedans, ceux qui ont constitué Israël en puissance nucléaire occulte, ce ne sont pas les Américains, ce sont principalement les Européens. C'est la France de Gaulle qui n'était pas pro-arabe, contrairement à ce qu'on croit, qui a donné l'arme atomique à Israël dans les années 60. Et aujourd'hui, ces missiles sont montés sur des missiles de croisière modifiés Pershing américains, mais qui sont installés sur des sous-marins de poche allemands de la classe Dolphin. Ce sont donc Paris et Berlin qui sont les responsables de la puissance nucléaire occulte israélienne qui menace la Méditerranée et le Proche-Orient. On les voit donc mal intervenir comme arbitre dans la question du nucléaire iranien. À peine gigantesque hypocrisie.
Merci, Monsieur Luc Michel, et Madame Midani, pour ces deux analyses. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une sorte de tournant de l'histoire du Moyen-Orient, parce que pour une fois, on peut presque voir une forme d'unité sur les différents territoires. On parle quand même de territoires qui n'étaient pas forcément tous d'accord, rien que d'un point de vue religieux, d'un point de vue ethnique aussi. Il faut rappeler qu'on parle de centaines d'ethnies qui sont en tout le Moyen-Orient, qui avant travaillaient sous forme de tribus, ne se mettaient pas forcément d'accord. Et là, on voit vraiment une forme d'unité. Est-ce qu'on est dans un moment de l'histoire, 2022, pour être une date historique pour ce qu'on appelle le Moyen-Orient d'un point de vue d'unification? On parle également de résistance, mais vous-même, Madame Midani, vous avez exprimé lors d'un débat que la Syrie, ce n'est pas seulement la résistance, c'est également tout un peuple qui veut s'unifier pour mettre fin à la situation accablante du territoire et du vol permanent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Effectivement, il y a un tournant, mais il n'est pas vraiment bien opéré, je dirais. Au niveau des pays de l'axe de la résistance, oui, mais on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de diversions, par exemple, qui ont été faites en Irak tout de suite après à chaque fois que l'Irak adhère effectivement à une sorte de fluidité et d'unité avec la Syrie et de fluidité des mouvements économiques, en fait, ouverture des passages entre la Syrie et l'Irak. On voit que tout de suite, le lendemain, il y a aussi diversion et il y a des gros problèmes qui explosent dans le pays, des manifestations, etc., des occupations. C'est arrivé à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a eu un accord entre la Syrie et l'Irak, à chaque fois qu'on a ouvert le passage Al-Qayyim et Boukamal, ça a été ça. Au niveau du du nord-est de la Syrie, c'est pareil. Les Américains ont mis en place Daesh et maintenant c'est Qassad, c'est les forces kurdes qu'ils prétendent, qu'ils aident aussi et qu'ils fournissent, mais qui n'ont rien de syrien, qu'ils appellent les forces démocratiques syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes d'ailleurs. On voit aussi qu'il y a eu des efforts très très importants et des pressions très importantes de la part des États-Unis pour qu'il y ait, vis-à-vis des pays du Golfe, pour qu'il y ait une normalisation ou une acceptation d'Israël au niveau de leur rapport politique et visant à intégrer justement des relations Arabie Saoudite, Israël, les Émirats Arabes Unis.
Merci, Mme Midani. Excusez-moi, de vous interrompre. Merci beaucoup, parce qu'on en arrive à la fin du débat. Il est vrai qu'on peut parler à chaque fois des coups de frein faits par les alliés des États-Unis et de l'OTAN concernant le Moyen-Orient. Vous avez parfaitement raison et je suis d'accord. Je m'excuse de vous interrompre. Malheureusement, le débat prend fin maintenant. Il faut bien mettre un fin à un moment donné. Dans tout cas, vous avez bien entendu, l'OTAN de nouveau est mis et réagissant à ce qui se passe en Ukraine, même ici jusqu'au Moyen-Orient, en Iran, attaquant de nouveau. Est-ce que ça laisse entendre que les négociations vont s'arrêter là? Est-ce que l'Iran va se retirer de ces négociations qui fait depuis plusieurs années n'arrête pas d'être renégocié? C'est les jours à venir qui vont permettre de les déterminer. Dans tous les cas, moi, je vous quitte ici. C'est la fin du débat, ici à partir des studios de Téhéran.
Chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. La lutte contre le régime sioniste, qui représente une menace majeure pour la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, est une des priorités des forces armées iraniennes, a ponctué le commandant de la base de défense aérienne Khatamul Abiya, le général de division Ghulam Ali Rashid, dans le cadre de l'exercice baptisé « Autorité de l'armée de terre 1401 »« Ertedar 1401 ». Toute action menaçante du régime sioniste contre les intérêts et la sécurité nationale de l'Iran est coordonnée et suivie par les États-Unis. La réponse de nos forces armées sera ferme et proportionnelle à la menace proférée. Tous les éléments, les mercenaires et les États qui coopèrent avec le régime sioniste contre les intérêts de l'Iran paieront le prix de leur provocation, a-t-il fait savoir. En allusion à l'exercice de l'armée de terre, le général de division Rashid a déclaré que les commandants des forces terrestres surveillent avec assiduité les agissements de l'ennemi et bénéficient de tous les moyens militaires de pointe pour contrecarrer toute agression et menace des ennemis. L'exercice autorité de l'armée de terre 1401 a été conçu et mis en œuvre en fonction des réalités actuelles, de la structure des guerres futures et des menaces anticipées. Dans la nuit du 7 septembre, les hélicoptères militaires de l'armée ont effectué des vols de nuit grâce à leurs caméras infrarouges leur permettant de survoler dans l'obscurité totale. La manœuvre de deux jours est une première et elle a eu lieu dans la zone générale de Nasrabad de la province d'Isfahan. Des hélicoptères de combat de l'aviation de l'armée de terre ont pour la première fois accompli des missions nocturnes à grande échelle. Vols coordonnés, tirs de nuit, exercice d'aérocombat du 65e régiment de réaction rapide, opérations de soutien aux forces de manœuvre, échange d'informations, test du missile Chaffar optimisé avec une portée trois fois plus supérieure à la version précédente et utilisation des systèmes de vision nocturne. Engagés dans des opérations militaires, dans des environnements toujours plus complexes, inconnus et saturés, les hélicoptères jouent un rôle fondamental. Ces plateformes s'appuient sur des systèmes d'autoprotection pour renforcer leur survivabilité face à des menaces très diverses, dont les radars, lasers et missiles ennemis. Le système d'autoprotection de guerre électronique, qui combine plusieurs capteurs et des capacités de contre-mesure, est capable de détecter, identifier et prioriser les menaces, fournir à l'équipage des alertes corrélées, déployer les contre-mesures appropriées au moment opportun. Le missile Chaffar testé lors de cet exercice dispose de la capacité tirer oubli qui lui permet d'atteindre sa cible de manière autonome. Les missiles sol-air irakiens tirent. Un drone de l'armée américaine a eu un accident à la Tarmiya, dans le nord de la province de Bagdad, ont rapporté des sources irakiennes jeudi 8 septembre. Le site web irakien Chaffar News, citant une source de sécurité, a déclaré qu'un problème technique était à l'origine de ce crash, suite auquel des agents américains se sont dépêchés sur place pour récupérer les débris du drone. La chute du drone, qui n'a fait aucune victime, intervient pourtant à un moment où les opérations de nettoyage se sont multipliées à travers l'Irak dans le cadre des préparatifs du pèlerinage d'Arbaïn. L'armée et les forces des Hashd al-Shaabi s'y engagent quotidiennement. Ainsi, Al-Tarmiya, où le drone s'est écrasé, a fait l'objet la semaine dernière d'une opération antiterroriste menée par l'armée irakienne des forces des Hashd al-Shaabi qui doivent assurer la sécurité des routes menant à cette ville ciblée anciennement par les avions US. Le crash envoie donc aux capacités de la résistance irakienne en matière de défense anti-aérienne. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le groupe de résistance irakien Al-Nujaba a dévoilé il y a quelques mois, à l'occasion de la journée internationale de Quds, le missile balistique Jamal 69, en publiant une vidéo en hébreu pour informer les occupants sionistes que le missile balistique est capable de viser différentes zones dans les territoires occupés. D'une portée de 700 km, équipé d'une ogive de 450 kg d'explosifs, le missile est capable de transporter du combustible solide, a précisé le mouvement Al-Nujaba d'Irak. La capacité balistique de l'axe de la résistance ne menace pas seulement les États-Unis, mais tous les pays membres de l'OTAN qui s'aventureraient à violer la souveraineté des pays membres de la résistance. Il y a 4 jours, la base militaire turque Bamerni, située à Douk, au nord de l'Irak, a été prise pour cible par un missile guidé Concorde qui a touché avec précision un bulldozer et l'a détruit, comme le montrent les vidéos diffusées. Encore sous le feu, les Yankees ont des bandades. Des sources syriennes ont rapporté vendredi 9 septembre que la base militaire américaine dans le champ gazier de Conoco, dans l'est de la Syrie, a été prise pour cible à coup de 2 roquettes. Ces derniers mois, le nombre d'attaques à la roquette contre des bases militaires américaines dans l'est de la Syrie a connu un rythme élevé, alors que parallèlement, le vol de pétrole syrien par l'armée américaine a lui aussi doublé. Selon les sources syriennes, l'US Army transfère le pétrole volé de la Syrie vers ses bases en Irak, à bord des convois qui empruntent des itinéraires illégaux dans le nord-est de la Syrie, dont le point de passage Al-Walid. De surcroît, les Américains font également passer en contrebande d'énormes quantités de blé et de céréales syriens pour l'utilisation hebdomadaire de leurs soldats en Irak. Les terroristes écrasés sous les bombes et les missiles. L'armée syrienne a lancé jeudi 8 septembre un missile balistique tactique au TR-21 Toshka dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, qui est occupée par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, affilié à Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Muni d'une ogive à fragmentation, le Toshka a ciblé la plaine d'Org à l'ouest d'Idlib, où Hayat Tahrir al-Sham a des bases militaires. Parallèlement à ces frappes aux missiles, les avions russes sont passés à l'offensive et ils ont mené 12 frappes aériennes contre ce groupe terroriste, près des villes de Hafsarja, Sheikh Youssef, Siger et Rafah. Lors des frappes aériennes russes, 7 personnes ont été tuées et au moins 15 autres blessées dans la campagne occidentale d'Idlib. Les frappes russes et l'attaque de missiles syriennes étaient probablement une réponse aux récentes violations du cessez-le-feu par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham et ses alliés, dans lesquels 4 soldats syriens avaient été tués et 4 autres personnes blessées. Rappelons que le cessez-le-feu dans la province d'Idlib est entré en vigueur en mars 2020, suite aux négociations turques-russes. Un drone israélien abattu. L'armée israélienne a annoncé qu'un drone militaire s'était écrasé près de la frontière maritime israélo-libanaise jeudi soir 8 septembre. Un drone de l'armée de l'air israélienne s'est écrasé jeudi en mer, le long de la frontière maritime entre Israël et le Liban, avant d'être récupéré par la marine, a annoncé vendredi 9 septembre l'armée du régime sioniste. Le journal en ligne The Times of Israel, citant l'armée israélienne, a prétendu que l'accident s'est produit en raison d'un dysfonctionnement. Aucun autre détail sur la cause n'a été publié. L'armée israélienne a déclaré que l'ensemble de la flotte du drone en question serait clouée au sol dans le cadre d'une enquête sur le crash. Le crash des drones de l'armée sioniste aux frontières nord des territoires occupés en Cisjordanie et aux alentours de la bande de Gaza s'est multiplié ces derniers temps, Tel Aviv prétendant que ces crashs sont dus à des défaillances techniques. Les tensions ont été vives entre le Liban et l'entité sioniste au cours des derniers mois, alors que l'entité d'occupation se prépare à extraire du gaz et du pétrole dans une zone maritime contestée entre les deux parties. Le président libanais Michel Aoun a qualifié l'extraction israélienne dans la zone contestée de provocatrice. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a averti à plusieurs reprises que la résistance ne permettrait pas à l'ennemi israélien d'extraire du gaz et du pétrole en Méditerranée si le Liban était empêché d'investir dans sa richesse maritime. « les Palestiniens ont lancé 1526 opérations contre le régime sioniste. Le bataillon de Jenin est devenu l'armée de Jenin en acquérant une expérience militaire. La résistance dans cette ville a récemment ciblé les sionistes via des tactiques militaires, des guet-apens solides et des explosions téléguidées. Selon le service de sécurité intérieure israélien Shabak, les attaques des combattants palestiniens contre les soldats et colons israéliens en Cisjordanie ont considérablement augmenté. Entre janvier et août 2022, les Palestiniens ont lancé 1526 opérations officiellement déclarées par les médias israéliens. Les attaques palestiniennes ne se limitent plus au lancement de bouteilles incendiaires, de bombes au tuyau, aux jets de pierres et aux attaques au couteau. Les jeunes Palestiniens mènent aujourd'hui des opérations commando complexes avec des armes de plus en plus sophistiquées. D'après des sources palestiniennes, 23 Israéliens ont été tués et 62 autres blessés au cours de ces opérations, dont la plupart ont été effectuées par de jeunes hommes nés après la signature des accords autour d'Oslo en 1993. Voilà, si ça s'achève ce programme, merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.